Formation biblique de disciples. Cours numéro 2. L'autorité souveraine des Écritures. Autorité de la parole de Dieu. Première partie. La Bible, fondement de la foi. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Construire sur le roc consiste donc à écouter et à mettre en pratique les paroles du Christ. Elles sont le fondement de la foi posée dans nos vies. Nous bâtissons sur ce fondement en écoutant et en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu seule qui est capable, quand nous l'écoutons et la mettons en pratique, de bâtir en nous en tant que chrétiens un édifice de foi fort et solide, basé sur le fondement de Christ lui-même. Cela nous amène à un sujet d'une extrême importance dans la foi chrétienne, celui de la relation entre Christ et la Bible et ce qui en découle, la relation entre chaque chrétien et la Bible. Petit 1, Bible et Christ nommés la parole de Dieu. Continuellement, la Bible déclare être la parole de Dieu. Certains passages de l'Écriture donnent à Jésus le titre de la parole ou la parole de Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Apocalypse 19, verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Cette identité de nom révèle une identité de nature. La Bible est la parole de Dieu et Christ est la parole de Dieu. Chacune de ces entités est de la même manière, premièrement une révélation parfaite de Dieu, deuxièmement divine, troisièmement elle fait autorité. La Bible et Christ sont tous deux parfaitement en accord. Premièrement, la Bible révèle parfaitement Christ. Deuxièmement, Christ accomplit parfaitement la Bible. Troisièmement, la Bible est la parole écrite de Dieu. Et quatrièmement, Christ est la parole de Dieu personnifiée. Avant son incarnation, Christ était la parole éternelle auprès du Père. Dans son incarnation, il est la parole faite chair. Le même Saint-Esprit révèle Dieu. Premièrement, à travers sa parole écrite, la Bible, et deuxièmement, dans la parole faite chair, Jésus de Nazareth. Petit 2. La relation du chrétien avec Christ et avec la Bible. Si Christ est en ce sens parfaitement un avec la Bible, alors la relation du chrétien avec la Bible doit être semblable à sa relation avec Christ. De nombreux passages des Écritures apportent un témoignage à ce sujet. Jean 14, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Ils pourront encore le voir ou avoir une communion avec lui, après qu'il les ait quittés. Nous pourrions le comprendre ainsi. Mais vous continuerez à me voir. À cause de cette affirmation de Jésus, Jude demande au verset 22 « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Autrement dit, quel genre de communication pourras-tu maintenir avec nous et qui ne sera pas accessible au monde ? Au verset 23, Jésus répond à cette question et dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » La clé pour comprendre cette réponse est dans la phrase de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Autrement dit, un vrai disciple se différencie des gens du monde parce qu'il garde la parole du Christ. La réponse de Jésus révèle quatre faits marquants concernant la parole de Dieu. Premièrement, l'observation de la parole de Dieu est la marque distinctive suprême qui fait la différence entre le disciple du Christ et le reste du monde. Deuxièmement, l'observation de la parole de Dieu est la preuve absolue de l'amour du disciple pour Dieu est la cause de l'amour de Dieu pour son disciple. Troisièmement, c'est au travers de la parole de Dieu, si elle est gardée et mise en pratique, que Jésus se manifeste aux disciples. Quatrièmement, c'est par la parole de Dieu que le Père et le Fils entrent ensemble dans la vie du disciple et font leur demeure chez lui. Ainsi l'Écriture, la parole de Dieu, est le modèle absolu sur lequel tout doit être jugé et éprouvé. Aucune doctrine, pratique, prophétie, révélation ne doit être acceptée si elle n'est pas pleinement en accord avec la parole de Dieu. Quelle que soit la personne, l'organisation, le groupe ou l'église, personne n'a l'autorité de changer, de passer outre ou de s'écarter de la parole de Dieu. Cependant, l'Écriture nous avertit, dans Matthieu 24, versets 23 à 25, il est écrit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Et 1 Timothée 4, versets 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Qu'avec la manifestation grandissante du Saint-Esprit dans le monde en cette fin des temps, il y aura une augmentation de l'activité des forces sataniques et démoniaques, qui entraîneront les hommes dans de fausses doctrines et de faux cultes, cherchant toujours à s'opposer au peuple de Dieu et à ses desseins sur la terre. Petit 3. Relation entre parole de Dieu et Saint-Esprit. Nous avons aussi à saisir un grand principe dans l'Écriture. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu doivent toujours travailler ensemble, dans une unité et une harmonie parfaite. Nous ne devons jamais séparer la parole et l'Esprit, ou l'Esprit de la parole. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Autrement dit, quand la parole de Dieu sort de sa bouche, alors son esprit l'accompagne. Ainsi, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu sont toujours ensemble et parfaitement unis, agissent en une seule opération divine. Par exemple, quand Dieu dit « que la lumière soit » dans Genèse 1, verset 3, puisque la parole et l'esprit sont unis, la création a pu avoir lieu et la lumière a pu exister. Ce qui est vrai pour ce grand acte qu'est la création est également vrai dans la vie de chaque individu. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu unis dans nos vies contiennent toute l'autorité créatrice et la puissance de Dieu lui-même. À travers la parole et l'Esprit, Dieu pourvoira à tous nos besoins et il accomplira son plan et sa volonté parfaite pour nous. On le voit dans Philippiens 2, verset 13. Chercher les manifestations de l'esprit sans la parole entraîne inévitablement la folie, le fanatisme et l'erreur. Et la parole sans la vie de l'esprit aura pour résultat une orthodoxie sans puissance et un formalisme religieux. Deuxième partie, l'autorité de la parole de Dieu. Jean 10, versets 34 à 36. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit vous êtes des dieux » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu ?» Petit 1, parole de Dieu et Écriture. Pourquoi Jésus emploie-t-il deux termes ? La parole de Dieu et l'Écriture. Quand Jésus appelle la Bible la parole de Dieu, il indique que les vérités révélées ne trouvent pas leur origine dans l'homme, mais en Dieu. Les hommes n'ont été que des instruments, des messagers. Quand Jésus emploie pour la Bible le mot écriture, Jésus indique une limitation de la Bible prévue par Dieu. Cela signifie littéralement ce qui est écrit. Toute la connaissance de Dieu et le plan de Dieu n'y sont pas contenus. Petit 2. La Bible est sélective. Nous voyons que la Bible, bien qu'entièrement vraie et digne d'autorité, est également très sélective. Son message est essentiellement destiné à la race humaine. Elle est écrite de telle manière que les êtres humains peuvent la comprendre. Son objectif et son sujet sont le bien-être spirituel de l'homme. Elle révèle principalement la nature et les conséquences du péché, ainsi que la façon d'être délivré de celui-ci et de ses conséquences par la foi en Christ. Petit 3. Autorité de la Bible. Dans Jean 10, verset 35, Jésus approuve clairement et entièrement la légitimité de la Bible, comme ayant pleinement autorité, car il dit « L'Écriture ne peut être anéantie ». La Bible indique clairement que c'est le Saint-Esprit qui est l'influence invisible et absolue qui a permis à Dieu de contrôler, diriger et communiquer avec l'esprit et l'intelligence des hommes qui ont écrit la Bible. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, en aucun cas, le message ou la révélation de la Bible ne trouve son origine dans l'homme, mais toujours en Dieu. Le verset 21 le confirme. La même vérité d'inspiration divine est exprimée dans l'Ancien Testament. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette foi épurée. Psaume 12, verset 7. Nous pouvons interpréter ainsi. Le fourneau d'argile représente l'élément humain. L'argent représente le message divin qui doit passer par le canal humain. Le feu qui assure la pureté absolue de l'argent, c'est-à-dire la précision absolue du message, représente le Saint-Esprit. L'expression « sept fois » indique la perfection absolue du travail du Saint-Esprit. Ainsi, l'image entière nous confirme que l'exactitude totale du message divin des Écritures est due à la parfaite opération du Saint-Esprit qui l'emporte sur la faiblesse de l'argile humaine, en épurant de toutes les scories de l'erreur humaine l'argent sans défaut du message de Dieu pour l'homme. Dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 17-18, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus dit ici que le texte original des Écritures hébraïques est si précis et digne d'autorité que pas même la plus petite lettre ou la plus petite virgule ne peut être enlevée ou modifiée. De sa naissance à sa résurrection, Jésus a suivi un principe suprême exprimé dans cette expression, afin qu'elle soit accomplie. Dans Luc 4, verset 21. Nous pouvons donc affirmer que toute la vie terrestre de Jésus a été contrôlée et dirigée dans tous ses aspects par l'autorité absolue des Écritures de l'Ancien Testament. Petit 4. La parole de Dieu et l'éternité. David dit dans le psaume 119, verset 89, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » David met l'accent sur le fait que la Bible n'est pas le produit du temps mais de l'éternité. C'est aussi le cas un peu plus loin au verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La même pensée est exprimée par Jésus lui-même dans Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Petit 5. Authenticité de la Bible. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Malgré toute la critique moderne sur la question de l'authenticité des Écritures, il est remarquable que 3000 ans plus tôt, David ait écrit « Le fondement de ta parole est la vérité ». Autrement dit, la Bible est vraie du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Petit 6. Constitution des évangiles à l'aide du Saint-Esprit et transmission de la parole. Jésus a explicitement donné l'ordre à ses disciples de transmettre le récit de son ministère et de son enseignement à toutes les nations de la terre, puisqu'en Matthieu 28, verset 19-20, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Auparavant, dans Matthieu 23, verset 34, il leur avait dit « C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. » Il est clair que Jésus avait l'intention de demander à ses disciples de faire le récit écrit de son ministère et de son enseignement sous une forme permanente. Le mot « scribe » signifie « écrivain », c'est-à-dire celui qui couche par écrit les enseignements religieux. Auparavant, Jésus avait pris toutes les dispositions nécessaires pour que tout ce que les disciples écrivaient soit absolument juste, puisqu'il leur a promis d'envoyer le Saint-Esprit dans ce but. Dans Jean 14, verset 26, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Puis dans Jean 16, verset 13, il est précisé « Il vous conduira dans toute la vérité. » Nous constatons ainsi que l'exactitude et l'autorité du Nouveau Testament, comme celle de l'Ancien Testament, dépendent de l'enseignement, de la direction et du contrôle du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu » dans 2 Timothée 3, verset 16. Petit 7. Ancien et Nouveau Testament, la même autorité. Par exemple, dans 2 Pierre 3, versets 1 à 3, l'apôtre écrit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Ici, Pierre met les écritures des prophètes de l'Ancien Testament et les commandements des apôtres de Christ sur le même plan comme ayant exactement la même autorité. Au verset 15 et 16 du même chapitre, Pierre reconnaît l'autorité divine des écrits de Paul lorsqu'il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. L'expression « des autres écritures » montre que même durant la vie de Paul, les autres apôtres connaissaient que ces épîtres revêtaient la pleine autorité de l'écriture. Pourtant, Paul n'a jamais connu Jésus dans son ministère terrestre, mais Paul dépendait uniquement de la révélation et de l'inspiration surnaturelle du Saint-Esprit. Ainsi, l'Ancien et le Nouveau Testament se confirment et se complètent et constituent une révélation cohérente, complète et qui se suffit à elle-même. Fin du cours. Question. Premièrement, selon le cours, en quoi la Bible est-elle le fondement de la foi? Donnez des versets bibliques. Comment Jésus a-t-il affirmé l'autorité des auteurs des écrits de l'Ancien Testament? Luc 24, verset 44, mais encore. Deuxièmement, selon le cours, quels sont les principes qui démontrent l'autorité de la parole de Dieu? Comment pouvez-vous expliquer ce qui prouve que le Nouveau Testament a autant autorité que l'Ancien? Troisièmement, si la parole a une telle autorité, quels fruits apporte-t-elle dans la vie du disciple? Pourquoi? Quatrièmement, quel est ou quels sont les objectifs des Écritures? Expliquez-vous avec des versets bibliques.